Bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Je ne vous demande pas ce que vous avez fait pendant la semaine de pause. Du passé, nous sommes séparés, peut-être définitivement séparés. Et c'est d'ailleurs la coupure moderne qui éloigne l'idée que le temps passé puisse exiger de nous quelque chose comme du dévouement. Cette coupure, l'historien des idées politiques Levent Yılmaz la situait à la fin du XVIIe siècle avec la querelle des anciens et des modernes, et il a défendu cette hypothèse dans un très beau livre paru en 2004 sous le titre « Le temps moderne, variations sur les anciens et les contemporains ». Mais dans ce cas, qu'attend-on de l'histoire? Si nous sommes convaincus qu'il vaut mieux vivre sous l'emprise de la nouveauté que sous l'empire de la tradition, alors pourquoi écrit-on toujours l'histoire? J'ai invité cette année, dans le cadre de ma chaire, Levent Yılmaz, qui écrit actuellement un livre sur la généalogie politique de la nature humaine, de Machiavel à Vico. Je l'ai invité à donner 4 conférences au Collège de France, en fait. C'est l'Assemblée des professeurs qui l'a invité sur ma proposition, à partir de demain, mercredi 7 mars, à 17h, dans l'amphithéâtre Guillaume Budé, puis les 3 mercredis suivants, 14, 21 et 28 mars, autour de cette question « Pourquoi écrit-on toujours l'histoire ?» Considération sur l'innovation et le passé. Et puisqu'il va cheminer avec moi jusqu'à la fin du cours, eh bien, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller y assister nombreux. Machiavel, justement. Nous en étions restés là, voici 15 jours, lorsque sous sa plume apparaissait ce nom qui va nous arrêter aujourd'hui, Messire Bernabo de Milan. Nous en étions là, en suspens, puisque à la toute fin de notre réflexion sur ce que j'avais proposé d'appeler la novélisation du réel, c'est-à-dire la capacité à saisir par la fiction cette puissance d'advenir que l'on désigne justement en français médiéval du nom de « nouvelle », il s'agissait au fond de tenir cette position machiavélienne face à l'indétermination des temps, de tenir cette position proche du point de bascule de la fiction borgésienne devant ce qu'il appelle, dans son essai sur le champ dantesque disant « les deux agonies possibles du Gaulin », cette oscillante imprécision. On en était là. Mais tout cela était bien trop fugace, et c'est le cas de le dire, imprécis. Reprenons donc. Nous sommes dans le premier tiers du chapitre 21 du Prince, soit dans la retombée du point de bascule du fameux chapitre 15, au cours duquel Machiavel abandonne brutalement son examen des formes de la production sociale des institutions étatiques, cette première partie qui justifie son titre en latin « De principatibus », des principautés. Et c'est un tête-à-queue, le chapitre 15, une sorte de revirement de plomb qui est aussi un renversement doctrinal, puisque le secrétaire florentin prend congé de toute la tradition politique médiévale d'inspiration aristotélicienne, foin de typologie subtile, il laisse sur place tous les miroirs au prince pour aller droit à la vérité effective de la chose. Andare dritto a la verità effettuale de la cosa. Véloce, il accélère donc la cadence et désormais sa prose va grésiller de formules étincelantes et provocantes dont on ne sait pas exactement, au fond, s'il faut les prendre au sérieux ou pas, si elles sont parodiques ou non. La plus fameuse, donc la plus incomprise, étant celle-ci. Aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se mantenere, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon et d'en user et de n'en pas user selon la nécessité. Les chapitres suivants déploient cette formule en mettant à l'épreuve d'une telle philosophie de la nécessité quelques vertus princières, libéralité, pitié, fidélité à la parole donnée, respectivement au chapitre 16, 17, 18. Il ne s'agit pas seulement de faire l'éloge de la dissimulation, mais de déstabiliser ce qu'il appelle le propre de l'homme, c'est-à-dire cette nature humaine dont je parlais à l'instant. Évidemment, la morale commune, vous le savez, n'en sort pas indemne, puisque le prince peut, pour se maintenir, faire bon usage des cruautés utiles. Il doit, en somme, se demander, je cite, s'il vaut mieux être aimé que craint ou l'inverse. Les chapitres suivants affrontent alors un nouveau risque en s'écartant de l'existence commune de ces sujets, en accusant l'écart. Le prince construit une distance qui peut se transformer en défiance. Il risque donc d'être pris au piège du récit de sa propre puissance. Dans le travail de l'œuvre Machiavel, Claude Lefort a décrit cet emprisonnement. Le prince incarne l'imaginaire que sa fonction dans la société lui assigne, mais en même temps, je cite Lefort, il y est pris. Il est ce désir de puissance et de gloire dans lequel se métamorphose le désir de ses sujets. Ce désir transfiguré a un nom en politique, c'est la haine. Et voilà ce que Machiavel affronte, sans louvoyer, au chapitre 19, avant de s'arrêter sur la matérialisation architecturale de ce dilemme au chapitre 20, les forteresses, je vais y revenir tout à l'heure, les princes redoutés s'enferment dans les forteresses, croyant se protéger de la haine du peuple quand ils ne font que l'attiser, donc ils sont doublement redoutés, parce qu'ils sont craints et prisonniers de la crainte qu'ils inspirent, de sorte que la meilleure forteresse qui soit, je cite Machiavel, est de n'être point haïe par le peuple. À cet endroit du texte, il vise précisément les Milanais, les Sforza, le Castello Sforzesco du duc Francesco Sforza, mais il convoque d'autres exemples à l'appui de son raisonnement. Ces exemples sont majoritairement contemporains, les Bentivoglio à Bologne, Pandolfo Petrucci à Sienne, César Borgia, tout en précisant bien qu'il s'agit d'un enseignement qu'il tire des lecose antiques et modernes, les anciens et les modernes. On y revient. Même balancement dans le chapitre 21, celui qui nous intéresse et où il aborde ce qu'un prince doit faire afin d'être tenu pour éminent. C'est le titre. Ce qu'il doit faire, grande imprese, non pas grande impression, grande entreprise, mais une entreprise qui fait impression. De grandes entreprises et dare disse rari esempi et donner de lui-même des exemples rares. Rares doit sans doute être compris ici comme exceptionnel, propre à frapper les esprits. On retrouve dans le discours sur la première décade de Tite-Live, 3.34, la même expression, rares exemples, rari esempi, avec cette précision, par quelque fait ou dit exceptionnel, fatto o detto, fait ou dit, les deux principaux exemples développés dans le chapitre étant, là encore, modernes et antiques. Modernes avec Ferdinand d'Aragon, dont la grandeur est d'avoir attaqué Grenade en 1492, antique avec le roi séleucide Antiochos III, qui réussit au contraire à convaincre les Achéens de rester neutres dans la guerre qu'ils menaient contre les Romains, selon un épisode que Machiavel a lu précisément dans Tite-Live. Or, entre ces deux exemples, le moderne et l'antique, intervient la référence à notre héros du jour, Bernabo Visconti. Il est aussi très avantageux pour un prince de donner de rares exemples de lui-même pour le gouvernement des choses du dedans, a governi di dentro, semblables à ceux que l'on raconte à propos de Messire Bernabo de Milan. Quand il en a l'occasion, lorsque quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire ou en bien ou en mal dans la vie civile, il doit choisir une façon de le récompenser ou de le punir, dont on sera amené à beaucoup parler. Donc il s'agit bien de l'exercice du pouvoir et du pouvoir de justice. L'intrusion de Bernabo Visconti, seigneur de Milan de 1354 à 1385, étonne. Après tout, il n'est ni antique ni moderne. Après tout, ce n'est pas un personnage historique de premier plan. Et puis, le passage est très allusif. On raconte que lorsque quelqu'un de ses sujets faisait quelque chose de bien ou de mal, Bernabo agissait de telle manière, retenons donc ici qu'il agissait en tant que seigneur justicier, choisissant une façon de le récompenser ou de le punir. Et cette manière, on était amené à beaucoup en parler. Bref, on raconte qu'il savait faire parler de lui. Le lecteur n'en saura pas davantage, mais il en sait suffisamment pour comprendre la nature fondamentalement tautologique de l'exercice du pouvoir. a le pouvoir, celui dont on dit qu'il l'a, non seulement parce qu'on parle de lui, mais parce que, parlant de lui, on réoriente, sans le savoir, le récit de nos propres vies. Le prince expose donc la connaissance, je cite Machiavel, des actions des uomini grandi, des hommes grands, traduisent justement Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, non pas nécessairement des grands hommes, parce qu'il n'y a pas de grands hommes, il n'y a que des grandes occasions qui élèvent les hommes qui savent les saisir. Or, ce qui grandit les hommes, c'est, je cite encore Machiavel, cette connaissance des actions des hommes grands, qui sont grands par l'action, elle a été, je le cite toujours, apprise par moi avec une longue expérience des choses modernes et une continuelle lecture des antiques, écrit-il dans sa lettre dédicatoire. Et les commentateurs l'ont longtemps pris au mot. Pour le lire, il faut donc le rapporter aux causes d'Italia, à son expérience des choses modernes, au fait de son temps, et à la continuelle lecture des antiques, à la lecture donc des textes anciens qui renvoient à un passé révolu. Il m'a toujours semblé nécessaire de peupler l'entre-deux, même s'il en parle beaucoup moins ou plus tard dans d'autres textes, dans les histoires florentines. Machiavel récapitule aussi une expérience politique qui est celle de l'Italie communale et post-communale. D'où l'irruption un peu inattendue de ce passé que j'appellerais moyen. Ce n'est pas le passé récent dont on a beaucoup parlé ensemble. Bernabo Visconti est mort en 1385, je l'ai dit, soit près de 130 ans avant la rédaction du Prince. Et on est dans un tout autre contexte politique. Ce n'est pas davantage le passé ancien, puisque entre le seigneur Visconti et les Sforza, duc de Milan, dont il parle tout le temps comme ses contemporains, eh bien, on peut dévider un fil généalogique. Non, ce passé moyen, au fond, c'est celui de l'écriture de l'histoire. Et voilà pourquoi, lorsque Machiavel écrit ses Storie Fiorentine et 10 ans plus tard, il évoque à plusieurs reprises Bernabo Visconti, mais précisément, il l'évoque pour n'en rien dire vraiment que sa place dans une généalogie. À 5 reprises dans le récit, Messire Bernabo apparaît, mais furtivement, seulement, je dirais, pour nommer le temps. Donc, à lire le Machiavel des histoires florentines, on saura juste qu'il succède à son oncle Giovanni Visconti, archevêque de Milan, seigneur de la ville, et plutôt adepte d'un bon gouvernement. C'est lui qui a convaincu Pétrarque de venir à Milan, mais il meurt, Giovanni, le 5 octobre 1354, et donc à ce moment-là, eh bien, il y a 3 seigneurs qui se partagent le stato, c'est-à-dire pas seulement la commune, mais l'état territorial dont Milan était la capitale, et Bernabo est maître de la partie orientale, jusqu'à ce que la mort suspecte, ou disons opportune, de son premier frère Matteo II l'année suivante, 1355, eh bien, agrandissent son domaine, Bergame, Brescia, Cremone, Soncino. Il entre en guerre contre Bologne, Mantoue, Gênes. Il subit l'excommunication du pape Urbain V. Il attend la mort de son second frère Galéas II en 1378 pour évincer ses neveux, se proclamer seul seigneur de Milan, et ce, jusqu'à ce que l'un de ses neveux écartés, Gian Galeazzo Visconti, dont on parlera beaucoup à partir de la semaine prochaine, parce que c'est lui qui obtient le titre de duc, parvienne à venger. Se venger de son oncle en l'emprisonnant, en l'empoisonnant, et Bernabo Visconti meurt le 6 mai 1385. Et, bon, alors, Gian Galeazzo Visconti, c'est quelqu'un d'important et qui est le grand adversaire de Florence. Mais Bernabo Visconti, au fond, c'est pas un personnage historique de premier plan, vu de Florence, puisque Machiavel écrit des histoires florentines. Lorsqu'il fait le récit de l'année 1378, il s'attarde évidemment bien davantage sur la révolte des Ciompi que sur les conséquences de la mort de Galéas II Visconti. Donc, rien dans le récit historique de Machiavel n'est susceptible d'expliciter les allusions du chapitre 21 du Prince. On raconte que... C'est donc que ça renvoie à un hors-champ narratif, supposé connu de ses lecteurs, tous ces exemples rares que l'on raconte et par lesquels Bernabo Visconti a su faire parler de lui, ce n'est pas la chronique qui la narre. Mais qui la raconte alors ? Ben, vous l'avez deviné, c'est la novellistica. Cet entre-deux du passé moyen, qui est l'intervalle de l'oubli de l'histoire, c'est un espace fictionnel. C'est bien de Bernabo Visconti en tant que personnage de la novellistica dont nous aurons désormais à parler à partir d'aujourd'hui et surtout de la semaine prochaine. Mais je souhaite le faire de manière très classique, pour une fois presque traditionnelle, en évoquant d'abord aujourd'hui, on va voir si ça marche, le personnage historique, avant d'analyser ses déformations imaginaires, ou plus exactement ses réinventions littéraires. Bref, tenter d'approcher une figure historique pour prendre la mesure de ses reconfigurations par la fiction politique. En tout cas, nous voilà strictement ramenés au début du cours, celui de l'année dernière, celui qui inaugurait en janvier 2017 la réflexion sur les fictions politiques. Je tentais de m'effrayer un passage vers un livre à venir, et j'annonçais alors déjà, vous voyez comme je lambine, qu'il pourrait concerner Bernabo Visconti, ce tyran attirant, cette manière de rendre aimable, par la saisie fictionnelle, l'emprise du pouvoir. J'avais alors fait voir quelques images pour tenter de comprendre ce qu'une autre figure obsédante, celle du tyran peint à fresque par Ambrogio Lorenzetti dans le palais public de Sienne en 1338, pour tenter de rendre visible la seigneurie, de démaquiller la gueule hideuse, pour tenter de montrer donc que cette image ne montrait pas tout, c'est-à-dire qu'elle ne donnait pas toutes les nouvelles de la tyrannie, c'est-à-dire qu'elle ne disait pas combien la tyrannie pouvait être attirante, même si elle venait à nous avec des effets de transparence. Alors, on pensait à certains personnages, et puis d'autres sont venus depuis, je n'y insiste pas, mais y compris en Italie. Mais ce qu'il y a à voir, ce qu'elle cache, évidemment, ce visage, c'était, je l'avais fait voir également, l'autre visage, souriant, aimable, plaisant, cette bouille hilare du seigneur qui rigole de son mauvais coup, qui semble nous dire une fois encore « je vous ai bien nu », ce Beffatore qui, sculpté dans la pierre mate de Vérone, vous le reconnaissez désormais, est celui du seigneur Can Grande della Scala, juché sur son piédestal, portant son cimier sur le dos, c'est-à-dire son home, on va en reparler, parade, qui nous toise du haut de son monument funéraire, ivre de sa victoire, de la seule victoire qui vaille en politique, celle que l'on impose à l'oubli par-delà la mort. Alors, depuis que l'on a suivi Dante jusqu'à la cour de Can Grande della Scala à Vérone, depuis qu'on a lu les reproches que lui faisait Pétrarque, que l'on a lu les reproches que faisait Boccace à Pétrarque de faire des reproches à Dante, depuis qu'on a vu Boccace aller à son tour à Ravenne pour y payer sa dette à sœur Béatrice, depuis que l'on a commencé à lire cette méchante littérature des Beffatore, sans toujours savoir qui, au total, à qui ce rire grinçant profitait, qui il libérait vraiment, sans comprendre encore si cette novellistica produisait davantage d'obéissance politique ou d'émancipation sociale. Depuis que l'on a appris à suivre les sauts des narrateurs habiles et légers pour y apprendre à conjurer l'ombre de la tyrannie de la mort, depuis que l'on a compris au fond que ce rire s'adressait depuis les tombeaux, c'est-à-dire ce que donne à entendre la première nouvelle de Boccace, on comprend mieux peut-être, en tout cas j'espère, de quelle profonde entaille se creuse le sourire de Can Grande della Scala. Mais dévisageons désormais le tyran du jour, Bernabo Visconti. Le voici. Reconnaissable grâce à sa barbe noire divisée en double pointe, l'air calme, droit, sévère, le visage effilé comme une lame, nullement effrayant, en somme, mais majestueux et martial. Cette tête est sculpté dans un marbre blanc veinée de gris, mais rehaussée d'une très riche polychromie, où sont encore nettement visibles des traces de brun, de bleu, de noir, de vert, de rouge et surtout d'or. C'était donc une statue entièrement décorée, entièrement peinte, une statue polychrome dont on sait qu'elle fut sculptée par Bonino da Campione, un artiste lombard originaire du lac de Lugano et dont l'activité est documentée à Milan, Brescia, Crémone, Vérone, qui fait partie de ce groupe de sculpteurs gothiques lombards qu'on appelle les Campionesi, qui sont une corporation et qui est lui-même à la tête d'une bottega spécialisée dans les monuments funéraires. Il est notamment l'auteur du tombeau du fils de Can Grande della Scala. Là, vous voyez le tombeau de Can Grande della Scala qui est à gauche, et celui dont je parle est au premier plan. Le plus somptueux et le plus animé de ces édifices gothiques qui défient le bleu du ciel à l'ombre de l'église Santa Maria Antica de Vérone, c'est Can Signorio della Scala. Et ce monument porte même sa signature de Bonino de Campione, qui est alors indiqué comme milanais. Cet axe Milan-Vérone est hautement significatif. Voilà le monument en entier de Bernabo Visconti, monument funéraire lui aussi, mais vous voyez, sommet d'une statue équestre, la tête que je vous montrais, ben, c'est la sienne. Cet axe Milan-Vérone, il est hautement significatif du point de vue artistique, mais aussi politique, je dirais dans l'acclimatation idéologique de l'expérience seigneuriale. Il est aussi important du point de vue dynastique parce que Bernabo Visconti a épousé la fille de Mastino II de la Scala, c'est-à-dire le troisième, celui qui est à droite. Le même jour, d'ailleurs, qui était le 27 septembre 1350, Giovanni Visconti, le seigneur et archevêque de Milan, a organisé, dans deux endroits différents, le mariage de ses deux neveux. Galeazzo a épousé à Rivoli la sœur du comte de Savoie et Bernabo, à Vérone, la fille de Mastino II della Scala. Mastino II della Scala, mort l'année suivante, c'est le frère de Can Signorio et le troisième, je l'ai dit, a disposé de son monument funéraire à Vérone, qu'il fit sculpter de son vivant même, contrairement à son père Can Grande. C'est aussi le cas de Bernabo Visconti. La statue équestre qui surmonte son sarcophage fut sculptée plus de 20 ans avant sa mort et placée, vous allez le voir, sur une à l'air libre, avant justement de rejoindre une église et le monument funéraire. Alors, la date est discutée. Une chose toutefois est certaine, c'est que Pietro Azzario, qui est notaire milanais et qui a écrit une chronique dont on reparlera, le Liber Gestorum in Lombardia, l'a vu. Il l'a vu, il l'a décrit, dans son Liber, et le Liber ne relate aucun événement après 1363. Ça, c'est pour le terminus postquem. L'antequem doit se situer vers 1355. Et donc, c'est le premier, c'est le prototype, puisqu'on sait aussi que Bonino da Campione part à Vérone en 1370. Donc, l'axe horizontal Milan-Vérone, géographique, est décisif pour comprendre cette configuration du pouvoir, qui est, je le répète, la manière d'acclimater dans l'Italie communale, dans sa culture politique, effectivement, l'expérience seigneuriale. Et on l'a vu, ça fait longtemps qu'on le comprend, Vérone est véritablement le prototype. Mais il faut aussi situer cette histoire, évidemment, sur son axe vertical, généalogique, qui plante la légitimité de Bernabo dans sa lignée, celle des Visconti. Et c'est à l'emblématique de prendre en charge cette identification collective. On doit se souvenir ici des réflexions de Hans Belting sur la complémentarité médiévale du portrait, c'en est un, assurément, au naturel, puisque sculpté du vivant même du Seigneur, du portrait et du blason. C'est-à-dire que pour identifier un personnage, on a besoin à la fois, avant la représentation, toujours, cette complémentarité médiévale, de l'effet corporel de la mise en présence et de l'effet symbolique de la représentation. Ici, le seigneur porte sur la poitrine les armes de sa lignée, la bicione, c'est-à-dire la guivre, la vipère héraldique, la guivre ondoyante qui recrache un enfant. On la voit mieux ici. L'histoire symbolique de ce blason a été récemment reprise par Paolo Zaninetta dans un livre sur la propagande viscontéenne paru en 2013 sous le titre « Il potere raffigurato ». Ce symbole apparaît à la fin du XIIIe siècle dans les textes, notamment sous la plume de Bonvesine de la Riva, et les premières attestations iconographiques datent des années 1330. Ici, vous le voyez, du temps de la seigneurie d'Azzone Visconti sur la façade du palais archiépiscopal ou de la chapelle San Gotardo in Corte, mais c'est Bernabo Visconti qui, en même temps que son frère Galeazzo, là vous avez ici BG, Bernabo Galeazzo, c'est la même monnaie d'argent et de florin d'or, qui pour la première fois l'adopte dans son monnayage, hein, au revers de cette ambroise de Milan avec son fouet que je ne vous fais pas l'injure de vous présenter. Et vous reconnaissez cette guivre qui se trouve sur un écu qui lui-même est sur un cimier, c'est-à-dire justement ce home de parade qu'on avait vu aussi dans le dos de Can Grande della Scala. Cette emblématique renvoie à une fiction politique, celle des origines de la dynastie des Visconti qui puiserait dans le merveilleux chevaleresque matiné d'idéal de croisade. La lignée, on le sait, remonte à Ottone Visconti, archevêque de Milan et premier seigneur, en 1277. On raconte que le père d'Ottone, qui s'appelait Uberto, aurait tué un dragon dans les environs de Milan, dragon qui terrorisait le pays. Motif classique à la fois de la géographie et de la littérature courtoise. Une variante de la légende met en scène le seigneur de Pavie, Boniface, dont le fils aurait été saisi au berceau par un serpent géant pendant qu'il était en croisade. De retour chez lui, il traque le monstre, lui fait recracher son fils, miraculeusement vivant. Mais la plus reprise des histoires transmises par la tradition lombarde s'inscrit encore dans l'horizon de croisade. C'est Ottone lui-même qui a vaincu un chef sarrasin qui portait comme cimier son casque avec un serpent ondoyant qui vomissait un enfant. Donc c'est un symbole qui aurait été arraché à l'ennemi. Et ce d'autant plus que c'est l'emblème, dit-on, d'Alexandre le Grand, car précisera plus tard Paolo Giovo, il est en Orient, des espèces de serpents qui font leurs petits par la bouche, comme l'oiseau Isis enfantait les siens et comme Jupiter cracha la prudente Minerve. Et les Sforza, plus tard, au XVe siècle, se plairont eux aussi à se dire dux anguiguer, c'est-à-dire né du serpent. On pourrait d'ailleurs s'amuser à suivre à la trace le symbole de la vipère ondoyante dans la culture visuelle contemporaine. On la retrouve dans le logo d'Alfa Romeo. Alfa Romeo, Alfa, je signale que ça s'appelle Anonima Lombarda Fabrica Automobili. Donc c'est pour dire l'origine lombarde et milanaise. L'Inter de Milan, évidemment. La Fininvest, une des entreprises qui a fait la fortune de Silvio Berlusconi, euphémise la guivre, puisqu'elle ne recrache plus un enfant, mais une fleur. Mais c'est dire avec suffisamment d'éloquence combien, effectivement, la culture des dominants joue avec arrogance de, justement, des effets de transgression. Et puis, sur justement une des villas de Berlusconi, on retrouve ce motif. J'ai trouvé cette photo sur un site complotiste qui pense que c'est une cible pour les extraterrestres, mais non, et que c'est un serpent aztèque. Non, non, c'est juste Berlusconi, quoi. C'est pire, c'est Berlusconi, quoi. C'est pas... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est un symbole qui est complètement ambivalent et qui joue de son ambivalence. Pourquoi ? Parce que, historiquement ou symboliquement, c'est l'histoire d'une inversion symbolique, puisque le serpent était un symbole positif dans les religions grecques et romaines, notamment du fait qu'il était en contact avec les puissances chtoniennes et qu'il devient, avec le christianisme, le symbole, sinon du mal, du moins de son ambivalence, puisque le serpent fait miroiter ses écailles chatoyantes et puis il mue. Il sait changer de peau. Donc c'est vraiment l'animal de la seigneurie qui, effectivement, peut effectivement ondoyer, peut se faire admirer et peut changer de peau, littéralement. Dans la basilique Sant'Ambrogio de Milan, parmi les nombreux éléments antiques remployés, il y a ce qu'on appelle le serpent de Moïse, qui est une sculpture hellénistique juchée sur une colonne de la nef centrale, qui aurait été ramenée de Constantinople par l'évêque Arnolfo II en 1002, justement. Dès lors, la vipera que i Milanesi accampa, la vipère que les Milanais arborent, comme écrit Dante au vers 88e chant du Purgatoire, devient disponible pour figurer la politique ondoyante des seigneurs de Milan, qualifiés par ses adversaires politiques de serpentine, modi serpentini. Ainsi, Luciano Pifanelli a relevé dans les sources de la pratique florentine des expressions comme « serpentina machinazione ». Par ailleurs, la vipère anthropophage des Visconti devient aisément le symbole de leur cruauté et plus profondément de cette pente dévoratrice de ce qu'on a appelé l'année dernière le pouvoir cannibale, ce monstre, ce double monstrueux de la métaphore eucharistique, parce que là encore, l'inversion des signes se produit aisément entre l'enfant recraché et l'enfant avalé. Le cimier figure ainsi l'autre visage symbolique de l'identité chevaleresque. Or, comme l'a remarqué justement Laurent Ablot dans ses études sur les rapports entre l'emblématique et l'autoportrait, le cimier se complète de la devise qui, contrairement aux armes de l'héraldique, est strictement personnelle et situe un individu dans sa lignée. La devise, c'est donc le support para-héraldique d'identification symbolique, et c'est un autre nom. Or, deux inscriptions se retrouvent sur la sculpture de Bonino da Campione, HB, qui doit se comprendre en honor Bernabovis, et SM, qui se développe en souffrir mestuet, en français. C'est-à-dire, je souffre de souffrir, je peux souffrir, je suis capable de supporter la souffrance. Cette devise est généralement placée dans un phylactère au-dessus d'un léopard assis dans les flammes et portant le heaume à la guivre des Visconti. Donc le léopard est le plus rapide des animaux et pourtant il n'échappe pas au brasier. Il est ici l'animal fétiche, on dirait le totem des Visconti. Il porte leur cimier, il dit leur devise, c'est-à-dire qu'il porte leur visage et leur nom. Et l'ensemble du dispositif est l'expression de cette immobilité stoïque. J'y suis, j'y reste, quitte à en souffrir. On se souvient de la fameuse description des sarcophages surélevés de Vérone, ces héros cavaliers hissés sur leur lit de parade par Georges Duby dans l'Europe des cathédrales. Il y voyait l'emblème du triomphe politique, le galop des joutes, l'envol des soirs de conquête, emportant ainsi pour l'éternité Can grande della scala. Avec Bernabo Visconti, on est sommé d'admirer, ça fait 6 mètres quand même, il faut quand même voir ce que c'est, on est sommé d'admirer une conquête et un triomphe politique, mais ni en vol, ni galop des joutes, le cheval est campé sur ses appuis, solennel et droit. Il faut dire qu'il prend place à la suite d'une grande cavalcade équestre dont il faut au moins citer deux précédents illustres. À Milan, c'est le podestat Oldrado di Treseno, qui timbre la façade du palais communal, le Palazzo della Ragione, et de son effigie équestre, qui est la première effigie équestre laïque de l'art communal. On est en 1233. C'était un ami de l'inquisiteur Pierre de Vérone, et aussi l'inscription « Prévient-elle le passant au cœur de l'espace communal ?» En du Seigneur 1233, au Podesta de Milan, Oldrado di Treseno, lorsque vous passez sous le portique royal du Grand Palais, vous vous rappellerez toujours les mérites du Podesta Oldrado, citoyen de Lodi, défenseur de la foi et de l'épée, qui construisit le palais et brûla, comme il le devait, les cathares. Donc, on a effectivement d'abord un fil hérétique qu'on va retrouver, mais aussi cette généalogie politique entre les Podestas et les premiers seigneurs. Le deuxième modèle, c'est la statue équestre d'Azzone et Visconti, qu'il fit ériger devant l'antique basilique de Santa Tecla, et qui assura l'enracinement dynastique des Visconti dans le Milanais. Donc là, on est 100 ans plus tard, exactement, 1329-1339, et cette statue a disparu. On pourrait, ça, ce sont pour les, je dirais, la première série équestre que l'on pourrait dire moderne. Mais elle s'inscrit elle-même dans un horizon antérieur antique. Au même moment se développe l'effigie équestre d'Ambroise de Milan, défensor Civitatis. Au même moment, on considère comme idéal hippique, évidemment, la statue de Marc Aurèle à Rome, qu'on prend comme celle de Constantin, les chevaux de Saint-Marc à Venise et le Regisole de Pavie, sans doute semblable à la statue équestre de Justinien à Constantinople. Le Regisole, ou Roi Soleil, est un monument impérial transporté de Ravenne à Pavie au 8e siècle, après la destruction de la ville par les Lombards. Pavie est la ville royale, hein, il ne faut jamais l'oublier. Elle a été placée sur une colonne devant le dôme, et cette statue équestre constituait l'emblème, justement, de son exaltation romaine pour Pavie. Elle a été détruite en 1796. Là, c'est un dessin anglais du XVIIIe siècle. Elle a été détruite par le club des Jacobins de Pavie. Ah oui, eux aussi mené leur propre iconoclasme révolutionnaire. Et on sait par ailleurs que la statue fut transférée, toujours comme butin de guerre, de Pavie à Milan entre 1315 et 1335, puis ramenée à Pavie. Et dans une lettre de 1364 adressée à Boccace, Pétrarque en fait une description enthousiaste. Pavie a été reconquise par Milan en 1359 et est devenue le lieu de résidence privilégié de Galeazzo II, qui a construit son château. Et c'est là qu'est accueilli Pétrarque durant l'été 1363. Vous savez qu'il doit toujours se justifier par rapport à son ami Boccace d'être l'hôte des Visconti. Dans sa lettre, la première du livre 5 des Séniles, des lettres de vieillesse, il la décrit ainsi. « Si tu venais, dit-il à Boccace, tu verrais ceci, une statue équestre en bronze recouverte d'or au sommet du forum qui semble gravir à vive allure le sommet de la colline. » Et on notera d'ailleurs que Léonard de Vinci, en 1490, lorsqu'il travaillait aussi au naturel, dans les écuries de Sforza, à construire le monument équestre de Francesco Sforza, a vu le Regisole et en a fait aussi des descriptions de vie. Hein, là, vous voyez d'ailleurs que tout est dans la question du galop. Et si on s'approche, d'un peu plus près du cheval de Bernabo Visconti, on voit que, justement, c'est dans le cheval que le sculpteur a mis la vie. Le seigneur erratique, c'est celui qui, effectivement, ne bouge pas, celui qui sait souffrir. Mais la culture chevaleresque est aussi une culture équestre, c'est une culture équine, et donc tout aussi est rassemblé dans la figure de ce cheval. Dans sa thèse inédite consacrée à la représentation équestre, Armel Femla évoque pour la sculpture de Bonino da Campione un portrait de museau au traitement naturaliste, où l'artiste a tenté de rendre le frémissement des naseaux dilatés, mais aussi le mouvement des poils, mais aussi le réseau des plis de la peau, l'affleurement des veines autour des yeux et de la bouche. C'est une visée naturaliste qui est propre à l'art lombard de ce temps. On peut la voir, par exemple, dans cette magnifique album qui s'appelle le Taquinum Sanitatis, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, code 1673, nouvelle acquisition latine, qui est une traduction latine justement d'un traité d'hygiène composé à Bagdad au IXe siècle et qui appartenait à la princesse Verde Visconti, quatrième fille du seigneur Bernabo, et ses enluminures naturalistes, élégantes, au ton passé, témoigne effectivement de ce souci du réel qu'avaient les enlumineurs lombards qui travaillaient dans ces ateliers dont les travaux de Kay Sutton ont permis justement de définir l'importance du mécénat de Bernabo Visconti, notamment ce magnifique Guiron le Courtois qui est composé, qui est une compilation des romans arthuriens composés à la demande d'Édouard Ier d'Angleterre par Rustichien de Pise, Rustichiano de Pise, celui à qui Marco Polo dicte son devisement du monde, en 1273. Là encore, ça fait partie des prises de la monarchie française, Bibliothèque nationale, nouvelle acquisition française, 52-43. On retrouve les mêmes tonalités atténuées qui plongent les scènes dans l'atmosphère irréelle de la grisaille, alors que les représentations animales ou la mise en scène des données spatiales produisent des effets naturalistes saisissants. Et c'est un manuscrit inachevé. Là, vous voyez quelques ombres non encore colorées de chevaux, inachevées parce que laissées inachevées par la mort de Bernabo Visconti. Bernabo Visconti est donc l'homme de cette culture courtoise, raffinée, qui correspond sans doute à son éducation. Entre 1346 et 1350, il a été, avec son frère Galeazzo, contraint à l'exil. Il passa son enfance otage des cours princières de Savoie, de Flandre, de France. En 1348, pendant la peste, il est l'hôte du roi Philippe VI de Valois. Puis il va à Chambéry. Il est avec sa sœur Bianca, 10 ans, Amedeo, 6, 12 ans. C'est une cour d'enfants. Et évidemment, il faut comprendre ce que signifie la culture chevaleresque pour cette génération. Lorsqu'il se marie en 1350, il savait tournoyer selon l'usage en France et en Allemagne, écrira à la fin du XVe siècle l'historien Bernardino Corio. Je ne raconterai pas ici les aléas événementiels du gouvernement de Bernabo Visconti. Leur horizon, je l'ai dit, est relativement limité. Ils bataillent pour reprendre Bologne. Il vise Mantoue, il cherche à renverser les Gonzaga, il réussit à s'emparer en 1370 de Reggio. Le plus souvent, il se heurte à plus fort que lui, à des adversaires comme l'empereur Charles IV de Luxembourg, surtout au pape Urbain V, qui le contient par les troupes de son légat Malatesta ou du cardinal Albornoz, mais qui le contient surtout par ses armes spirituelles. Bernabo Visconti est déclaré hérétique et schismatique en 1363, puis à nouveau 10 ans plus tard, en 1373, où le pape proclame une croisade contre les Visconti. Et voilà pourquoi, lorsque l'archevêque de Milan, Charles Borromée, découvrit le monument funéraire de cet ennemi de l'Église devant l'autel majeur de l'église de San Giovanni in Conca en 1567, il s'en indigna et il exigea qu'on la déplace. Si vous voulez la voir aujourd'hui, elle est dans le château, dans le musée du Castello Sforzesco. Parce que ce n'est pas du tout mon sujet, mais il faudrait effectivement décrire l'audace décorative de ce monument qui repose sur 6 colonnes et sur 6 pilastres octogonaux, donc 12 comme les apôtres, etc., et qui voit effectivement sur son sarcophage sculpté les évangélistes, le couronnement de la Vierge, flanqué, vous les avez reconnus, d'Augustin et d'Ambroise, et tout cela effectivement avec sur le flanc long des scènes de résurrection. Ce monument, en somme, est une provocation adressée à l'Église, mais aussi à la ville et à sa mémoire. Et c'est en cela que c'est, d'une certaine manière, un monument qui a à voir avec la sacralité. Je vais essayer comprendre, d'expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'il est justement pris dans une structure architecturale, je vais vous la faire voir, qu'on appelle la rocca, c'est-à-dire justement une forteresse, celle dont, Machiavel disait qu'elle devait protéger de la haine du peuple, mais qu'en réalité, elle l'attisait. Dans les années 1330-1340, les Visconti verrouillaient la plupart de leurs cités sujettes, Crema, Lodi, Brescia, Bergame, par la construction de ces citadelles que Galvano Fiamma analysait sans embâche comme un moyen d'intimidation des élites locales. Et je trouve très intéressant que dans les sources lombardes, la rocca soit souvent qualifiée de recinto sacro, c'est-à-dire de recet sacré. Mais sacré doit ici s'entendre comme isolé, retranché, mis à l'écart, qui contraste effectivement avec la forme de sacralité civique construite au centre de la cité par le binôme palais-cathédrale. Donc en se retranchant du cœur de la cité, évidemment, le seigneur se impose, mise à l'écart, accuse l'écart, se construit comme sacré, c'est-à-dire intouchable. Et c'est effectivement une transgression. Mais il y a pire que la forteresse. C'est l'enclos seigneurial. Il ne consente pas d'écraser la ville, mais on détruit l'agencement. Par exemple, seigneur de Milan, Luchino Visconti, à Luc, à Parme, en 1347, eh bien, a pris en otage la place civique et a mis en rapport la place civique avec la citadelle par une strada serrata, un corridor qui passe par la place communale et qui crée un dispositif de verrouillage de l'espace fermé de portes protégées qui s'appelle la sta in pace, rester en paix. Donc, c'est dire avec suffisamment d'éloquence qu'au fond, ces dispositifs architecturaux rompent avec une tradition communale de palais dans la ville que Azzone Visconti, dans une œuvre, un livre de jeunesse, ma thèse, a au contraire tenté de réactiver, c'est-à-dire ce que Galvano Fiamma a appelé la magnificence, c'est la capacité qu'ont les seigneurs à se réinvestir les hauts lieux de la mémoire communale. En l'occurrence, ici, on en avait déjà parlé il y a 2 ans, les portes de l'enceinte, la cathédrale et le palais communal, et a, d'une certaine manière, inversé les signes politiques de ces espaces qui, de civiques, deviennent seigneuriaux, mais pour montrer que la seigneurie est la poursuite de la commune par d'autres moyens. Cette inversion douce des signes, c'est cela que Bernabeau, au fond, attaque. C'est à cela, avec cela, qu'il rompt. Et ça, justement, parce qu'il se fait construire son propre palais, qui est en marge de la ville, dans reprenant d'ailleurs le palais du plus détesté des Visconti, donc là encore, c'est une provocation, celui de Luchino, près de San Giovanni in Conca, précisément là où est l'église où il a mis son tombeau. La toponymie a conservé jusqu'au XIXe siècle le souvenir de la Ca di Cane, la maison du chien. J'ai envie de dire du kleps. Cela fait allusion à 2 vers du Lamento di Bernabo Visconti dont on parlera, repris par Bernardino Corio sur la meute des 6000 chiens. Il était passionné effectivement par les chiens qu'il utilisait comme manière de dépecer ses ennemis politiques. C'est d'ailleurs finalement dans une des nouvelles de Matteo Bandello que l'on trouve une description du palais de ce très cruel seigneur. Mais en fait, ma thèse qui s'appelait « Le pouvoir de bâtir », c'était pas mal, mais en fait, le problème, c'est que ça reposait sur une base documentaire uniquement sur les archives publiques. Or, depuis, évidemment, et heureusement, on travaille, et notamment, il y a une enquête qui a tout remis tout remis en cause. C'est l'enquête d'Eduardo Rossetti, parue dans un volume de 2014 sous le titre « In contrata de vice comitibus », qui éclaire cette histoire d'un jour radicalement neuf sur de toutes nouvelles bases documentaires. D'une manière générale, on connaît très mal l'implantation des lignages à Milan, parce que la toponymie n'en garde pas la mémoire, ou alors de manière folklorique, la cadicane, on parle de ça jusqu'au XIXe siècle, et l'historiographie la sous-évalue systématiquement. Or, l'historien Eduardo Rossetti a étudié l'implantation de la résidence de Bernabo Visconti à partir de son démantèlement à gauche par lotissement, puisque dès qu'il est mort, évidemment, à partir de 1385, on a démantelé son palais, mais évidemment, ça se fait par lotissement, et de 1385 à 1447, et en prenant des actes notariés essentiellement en 1477 et en 1531, et en voyant comment la zone était ne serait-ce que qualifiée, il a pu, par un travail très patient de reconstitution de l'archéologie invisible aujourd'hui de ce quartier, mais à partir de ce qu'en disent les mentions des notaires qui le démantèlent, il a pu prendre la mesure de ce que moi je n'imaginais pas et que personne, n'imaginait. D'abord, on relève un nom omniprésent, Aola. C'est une cour, mais aulique, c'est-à-dire au sens impérial. Ensuite, on distingue leur emploi des matériaux antiques, de la polychromie, des colonnes. Enfin, on prend la mesure d'un palais qui a l'allure et la dimension d'un palais impérial. C'est d'abord un palais double. Alors, vous voyez notre statue, avant qu'elle ne surmonte le sarcophage, donc du vivant de Bernabo, qui est sur la place publique, qui est devant l'église, San Giovanni in Conca, c'est celle-là. Là, mais San Giovanni in Conca étant complètement saisi, capturé par un enclos seigneurial fermé et une cour double avec la domus sa femme, Regina della Scala, et celui de Bernabo. Regina della Scala, 20 000 mètres carrés. D'ailleurs, c'est une recherche à venir, c'est qu'on sous-estime et l'importance et le mécénat des seigneurs, femmes Visconti. Et il y a un modèle du palais double, qu'on connaît aussi d'ailleurs à Vérone. Le prototype est là encore véronais. Massino II de la Scala et Taddea da Carrara avaient chacun leur palais. On a donc un complexe palatial qui englobe l'église, qui ménage un passage par un pont couvert vers les autres palais. Voilà, cette le strada coperta, comme celui de Lucchino, qui est cette échappée qui permet cette échappée belle. Et donc, c'est ce qui s'exprime ici, c'est bien un pouvoir sacré. Non parce qu'il emprunte à la sacralité de l'Église, mais parce qu'il s'impose comme séparé, retranché, et qu'il retranche l'ensemble du quartier. Et ça, on n'en avait pas du tout une idée. Ça représente un sixième de Milan. C'est un sixième de l'espace d'une des villes les plus peuplées d'Europe qui est capturée, mordue par le pouvoir seigneurial. Alors revenons une dernière fois pour conclure sur ce monument funéraire. Dans la description qu'il fait du monument avant 1363, le notaire Pietro Azzario explique que les deux vertus postées à côté du chevalier sont celles sur lesquelles Bernabo s'appuie pour gouverner. Vous voyez ces deux vertus féminines qui flanquent le cheval et avec les flancs alourdis et épais de cet impressionnant destrier qui, vous voyez, repose littéralement sur ces figures. Eh bien, la force, à gauche, avec évidemment son lion, et la justice, à droite, avec sa balance. La force et la justice. C'est bien de ce double appui que l'on doit parler. Force et justice et leur mise en tension. Ce qu'a montré Andrea Gamberini, c'est que les gouvernements de Galeazzo II et de Bernabo Visconti s'opposaient particulièrement quant à l'exercice de la justice. Tandis que le premier, Galeazzo II, s'attachait à l'observation plutôt rigide des normes et des coutumes, le second, Bernabo, assumait sans entrave son arbitrium. Donc, ce qu'on considère comme juste une rivalité fraternelle ou une déchirure de faction, en réalité, c'est peut-être un partage des rôles. C'est peut-être, au fond, l'expérience de deux styles de gouvernement. À une protestation des citoyens de Reggio, mécontents de la révision de leur statut urbain suite à la conquête en 1370, Bernabo répondait en 1371 d'une formule qui claque comme un manifeste du pouvoir seigneurial en voie d'absolutisation, « Faciemus et de faciemus decreta praut nobis placuerit ». Je fais et je défais les décrets selon mon bon plaisir. Cet arbitraire dont on a saisi ensemble, je dirais, toute l'importance à la fois juridique et littéraire, c'est l'arbitrium de Dante, ce qui l'avait d'ailleurs attiré à Vérone. Cet arbitraire, notons-le au passage, ressort moins du caprice princier que du gouvernement par la grâce. Alfio Natale a ainsi montré que les suppliques de la chancellerie viscontéenne, connaissaient sous le gouvernement de Bernabo une mutation diplomatique décisive, conférant à la grâce seigneuriale une expression solennelle et curiale. À l'inverse, le notaire et chroniqueur Pietro Azzario insiste sur le fait que Galeazzo II ne recevait ni requête ni pétition. Là encore, on a la confrontation entre ces deux styles de gouvernement qui est emblématique, me semble-t-il, d'un régime seigneurial qui se trouve dans l'Italie du Nord du deuxième tiers du XIVe siècle à la croisée des chemins entre la poursuite prudente d'une politique d'inspiration communale à la Azzo e Visconti ou le tournant nettement revendiqué d'un pouvoir de type princier. Et le gouvernement par la grâce, il caractérise ce gouvernement princier. Et on voit d'ailleurs qu'il s'exprime aussi par la capacité à faire parler les autres. Puisque le gouvernement par la grâce, ça veut dire « je réagirai à vos requêtes, mais dites-les-moi d'abord ». Donc c'est effectivement une circulation narrative dont on a à faire, encore une fois, l'histoire. Bernabo Visconti incarne donc avec brio, avec brutalité, cette rupture qui s'exprime autant dans ses pratiques de cour empreintes d'un nouveau cérémonial de majesté, par exemple, c'est lui le premier à s'entourer d'une garde prétorienne, que dans la vigueur et l'expression, je dirais, de son pouvoir, de son arbitrium, de ce qu'il appelle la plenitudino potestatis. Et Nadia Covini, dans un livre qui s'appelle « La balanza dritta », a montré qu'au XVe siècle, les juristes, donc on le prenait au sérieux, Bernabo Visconti. À partir de la semaine prochaine, on va s'en moquer, il va devenir un personnage bouffon. Mais au XVe siècle, les juristes discutaient encore de la légitimité ou non que de l'expression par Bernabo Visconti de sa plenitudino potestatis, en disant qu'il vaut mieux que le Seigneur fasse preuve de plenitudino honestatis, une pleine honnêteté. On notera d'ailleurs que dans tous les cas de figure, ce personnage n'est rien d'autre, je le répète, que le nœud serré entre art de gouverner et art de raconter. Ce nouage que je cherche à saisir sous le nom de fiction politique. Quatre figures. Il s'agit bien de cela. Le cas Bernabo Visconti. Vous voyez que j'ai eu du mal à faire une étude de cas. mais c'est plutôt l'étude d'un cas. Un cas, on pourrait le dire familièrement, c'est un cas quand même, le gars. Bon. Mais le mot s'entend aussi en psychanalyse, en droit, le casus. Et aussi, on l'a vu ensemble, au croisement du droit et de la psychanalyse, en termes fictionnels. C'est à la fiction de prendre en charge ce que André Jolès, je l'avais dit dans la deuxième séance, appelait la forme du cas. J'en rappelle la définition. Elle a ceci de particulier, qu'elle pose une question sans pouvoir donner la réponse, qu'elle nous impose l'obligation de décider, mais sans contenir la décision elle-même. Nous revoici donc, pour terminer tout à fait, dans la position machiavélienne, face à l'indétermination des temps. Voici pourquoi il était bien illusoire de vouloir saisir la personne avant le personnage, la réalité historique avant sa déformation fictionnelle. Parce qu'on a indissociablement l'un et l'autre, l'un par l'autre. Et aussi pour les raisons que je donnais au début de l'heure, parce que le point de bascule du prince, c'est précisément celui qui mène de la formation historique des États à l'anthropologie politique des pouvoirs. C'est aussi un partage de la qualità dei tempi. C'est celui d'une seigneurie qui s'impose en donnant des nouvelles de sa propre tyrannie, qui prétend qu'elle n'a pas encore choisi le chemin, alors que peut-être elle l'a déjà choisi. Ce que l'historiographie sépare, il y a deux styles de gouvernement, celui de Galeazzo, celui de Bernabo, comme dans les séries policières, Good Cop, Bad Cop. En fait, la fiction les rassemble, la force et la justice. On pourrait dire qu'il y a tension, qu'il y a contradiction, qu'il y a déchirure intime, mais on pourrait aussi dire tout aussi bien le contraire, c'est-à-dire que ce sont ces deux femmes qui soutiennent les flancs lourds de ce cheval. Et au fond, qu'il y a, comme disent les juristes, force de loi. Et de tout cela, effectivement, nous aurons à parler. Je pense que Bernabo, on va s'occuper de ton cas. Voilà, merci.